Bonjour, bonjour, auditrices et auditeurs de Radio Galère sur les 88.4 de la bande FM et sur le canal 8C de la RNT1DAB+. N'oublions pas le site de la radio www.radiogalère.org. L'émission Les Échos de Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Maméga. À la technique, nous avons notre ami fidèle, toujours technicien, Sidi. Nous remercions d'être toujours si fidèle et toujours aussi compétent en la matière. Aujourd'hui, nous avons des invités avec lesquels nous allons nous entretenir. Il s'agira pour nous de suivre le cheminement du McDo traditionnel, symbole de ma bouffe et du libéralisme américain, à la plateforme de Saint-Barthélemy. Notre ami Saïd Bouknouch, qui est adhérent du comité, mais aussi responsable du collectif Mémoire en Marche, s'excuse de nous faire faux bond, mais suite à un décès, il ne peut faire autrement. Merci pour lui. Une pensée pour celle qui nous a montré aussi la voie, Françoise Éga. Demain, vendredi 27 novembre, sa famille, ses amis, auraient pu fêter ses 100 ans si le destin n'en avait pas décidé autrement. Nous allons faire une première pause musicale avant de démarrer avec nos invités qui se présenteront. Cette pause musicale est dédiée à toutes les femmes victimes de violences conjugales. Merci Sidi.
SOS Femmes Battues, bonjour.
Bonjour.
Oui, monsieur ?
Oui.
Vous êtes trompé de numéro ?
Non, je m'appelle Marc et j'ai battu ma femme.
Comment ?
Oui, je l'ai frappé, je suis devenu fou madame, j'ai dérapé, je viens d'appeler les urgences, je viens d'appeler les flics. Fallait que je parle à quelqu'un, fallait que je m'explique.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Un an et demi qu'on est mariés, depuis quelques temps ça va pas. Ça fait 6 mois que je cherche un emploi et un boulot. On vit en Île-de-France et depuis le mariage j'ai la tête sous l'eau. À 27 ans, je pensais pas être millionnaire, mais je voulais tout lui apporter, mais même le strict nécessaire, je n'y arrive pas. Alors je m'en suis pris à elle, comment ai-je pu tomber aussi bas? Des scènes de jalousie aux relations sexuelles alors qu'elle voulait pas.
Mais pourquoi?
Je l'ai cru responsable, mais c'est moi le minable. J'agissais comme si j'avais besoin de la rabaisser. Je l'ai blessée et je l'ai vu encaisser. J'ai tout fait pour l'éloigner de ses proches et j'ai menti, je traînais dans les bars avec des potes. Le soir, quand elle rentrait, le moins de détails, c'était l'embrouille. Et dans son regard, dans ses gestes, je voyais bien qu'elle avait la trouille. Je fais peur à ma femme et c'est mon drame. Son comportement a changé car j'ai été infâme.
Mais vous avez essayé d'en parler à quelqu'un?
Mais à qui? Je vais pas aller consulter un médecin, lui dire quoi? Elle a tenté de maintenir l'équilibre. Elle avait de l'argent et moi, je me suis senti invisible. Je me suis senti petit, alors je l'ai dénigré tout le temps.
Et la famille et les proches, personne vraiment?
Pas ma femme, c'est pas une chose qu'on l'on dit à ses parents. Elle a été patiente car elle avait l'espoir que je change. Mais plus elle essayait, plus je changeais pas. C'était une agression psychologique permanente. Et la violence de mes mots la rendait incompétente. Elle sentait pas en sécurité, elle avait raison. Plus je contrôlais la situation et plus c'était la prison. J'ai eu du mépris pour elle et pourtant je n'ai jamais cessé de l'aimer. C'est moi qui avais besoin d'être aidé. Madame, elle est enceinte de 4 mois et aujourd'hui je l'ai battue à lui casser le bras.
Comment? Qu'est-ce que vous dites?
Elle m'a fait une remarque, j'avais trop bu, ça a été une gifle au début. Puis elle a continué à se moquer en colère, je lui en ai collé une dans les gencives.
Quoi?
Ouais, on s'est battu et je l'ai frappé avec la barre de fer. Je lui ai fait vivre l'enfer, mais je n'en tire aucune fierté, madame.
Mais où est-elle?
Elle est à terre, là, à côté. Moi, inconscient, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà appelé les urgences.
Oh,
oui,
Dieu.
Je sais, j'ai été trop loin, j'ai pété un câble. Maintenant, je sais que c'est la fin.
Non, mais attendez, monsieur, Marc, continue à parler. Est-elle encore en vie?
Oui, je crois. Alors, c'est de ma faute. Je bossais dans l'informatique à la maison, je remplissais mon rôle. Mais tout est parti de travers, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Mais quand c'est vous, c'est souvent qu'on le voit pas venir. J'aurais dû me ressaisir, je le sais. Y a plus d'avenir aujourd'hui. Mon geste est impardonnable, méprisable. Elle méritait pas ça, madame.
Vous avez des remords?
Je veux pas qu'elle meure, non, car j'ai eu tort. Je lui ai manqué de respect, manqué à mon honneur, manqué à ma promesse, manqué à mes vœux, j'ai manqué à notre amour. Et je suis le seul responsable de cette violence conjugale. Je dois vous laisser, madame. Y a les flics à la porte.
Non, mais attendez, monsieur. Marc, ne raccrochez pas. Allô? Allô? Marc?
Ce morceau, c'est pour toutes les femmes battues. Les hommes n'ont pas d'excuses. Et cette chanson n'en est pas une. La réalité est souvent encore plus dure, je le sais, mais aujourd'hui j'ai pris mes responsabilités. Car c'est pour le meilleur et pour le pire.
Z. sur le 88.4 de la bande FM avec nos invités, parmi lesquels notre inénarrable Karima Berriche, sociologue et militante. Voilà. Alors, bonjour Karima.
Bonjour Jean-Marc.
Alors, elle est venue accompagnée par deux militants de la plateforme de Saint-Barthélemy ou Sainte-Marthe, comme vous le voulez. Vous allez vous présenter respectivement. Bonjour d'abord.
Bonjour, bonjour Jean-Marc. Moi, c'est Mohamed Aïmèche, bénévole à la plateforme McDo, tout à fait.
D'accord.
Bonjour, moi, c'est Guémarie Kamel, bénévole à la plateforme et coordinateur au sein de cette plateforme solidaire et sociale. Cette machine en guerre qui a été créée par la solidarité et toujours en lutte contre cette grande enseigne et essayer de pouvoir combattre la misère du mieux qu'on peut.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de réagir par rapport à l'intervention du président hier soir, ne serait-ce qu'en termes de solidarité. Est-ce que c'est un thème qui a fait écho, qui a eu un écho à votre niveau?
À notre niveau, c'est difficile parce que l'émetteur et le récepteur ne sont pas au même niveau. Ça serait bien qu'on puisse venir mettre des actes à ces mots-là. Solidarité, la solidarité n'est pas qu'avec la bouche. Elle s'entretient physiquement, psychologiquement et surtout humainement. Donc la solidarité, on n'a pas attendu le président pour qu'elle puisse exister et intervenir. Et donc nous sommes une cinquième ou une sixième puissance mondiale. Aujourd'hui, de se retrouver dans cette situation, c'est triste et on sait que seul on va vite et ensemble on va loin, alors qu'on est beaucoup à pouvoir essayer de créer ces passerelles. Et on le voit aujourd'hui entre le sud et le nord, cette fracture sociale. Et nous sommes là humainement pour leur dire qu'on soit issus des quartiers nord ou des habitants des quartiers sud. Nous sommes des êtres humains et la misère n'a pas d'odeur ni d'horizon.
Et oui, alors Mohamed, désires-tu réagir? Parce que en fait, lorsque je pose la question, ce qui est une réponse, c'est que le concept de solidarité n'a pas été posé par Emmanuel Macron. Ouais, bon, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans le discours, mais je n'ai pas entendu cela. Sauf excepté l'aide sociale, les aides sociales qu'il a énumérées, mais je ne sais pas si ces aides sociales pour la population et le public auquel vous apportez votre contribution au quotidien est concerné ou bien peut se dire, bon, 150 euros, bref.
Mais c'est normal quand on parle de solidarité, alors que quand on va dans ces grandes chaînes qu'ils nous imposent la distance sociale, la distanciation sociale, donc comment on peut créer de la solidarité si socialement on ne doit pas pouvoir essayer d'apprendre à se connaître, essayer de s'entraider. Et ça, ce mot-là, on devrait l'effacer de ces chaînes, même de nos bouches, la distanciation sociale. Et aujourd'hui, si on essaie de l'appliquer, c'est catastrophique.
Karima, voulais-tu réagir?
Non, alors ben, juste pour dire que je crois que je fais partie des rares Français qui n'ont pas voulu écouter l'allocution du président de la République, et plutôt, après coup, de voir un peu comment la presse allait en faire écho. Concernant les aides sociales, donc, il y avait déjà eu une première aide après le premier confinement de 150 euros, qui est bien peu. Quand on connaît le niveau des revenus des familles précaires ou en grande difficulté, celles qui, par ailleurs, aujourd'hui, se présentent au McDo, à la plateforme solidaire du McDo, 150 euros, c'est très peu. Donc on pense d'abord évidemment à ces personnes. Heureusement qu'il y a cette solidarité qui s'organise à nouveau. Je dirais que presque les 150 euros sont un petit plus, mais pas du tout ce qu'il faudrait pour que ces familles puissent effectivement assurer la subsistance, la nourriture, ce qui est important, le loyer, etc. Donc non, c'est juste encore une aide, je dirais, plutôt symbolique qu'efficace.
Mohamed.
En fait, comme l'a si bien rappelé Kamel, il y a le décalage entre le discours du président. Je parle même du premier confinement, je veux dire. Nous, concrètement, sur le terrain, on a sincèrement, on a uniquement bénéficié de dons. D'ailleurs, j'en profite par la même occasion à remercier toutes ces entreprises, tous ces Marseillais et Marseillaises, et éventuellement même les gens d'ailleurs, qui nous ont permis de pallier à ce manque qui est une obligation des pouvoirs publics de répondre à la demande de la population, qui, de par la perte de leurs revenus, de par les sans-papiers, par rapport au travail au noir, on va dire, on peut dire les choses clairement. Et donc, c'est des gens qui ont été complètement laissés sur le carreau. Et moi, pour le vivre quotidiennement auprès de la plateforme, c'est ce qui m'a obligé à continuer dans mon action, parce que... pour vous raconter ma petite histoire, j'ai jamais fait de bénévolat dans l'action concrète, et j'ai appris beaucoup par cette action, et je suis content d'avoir vu la réaction des Marseillais et des Marseillaises, quoi, de la population en globalité, et le constat des pouvoirs publics, il est depuis ma jeune enfance, hein, parce que j'ai grandi, même si je n'ai pas grandi à Marseille, juste à côté, à Septèmes-les-Vallons, mais j'ai grandi dans un bidonville. Et heureusement que bon, il y avait quand même les services sociaux à l'époque, c'était les fameux ATOM, les centres sociaux, oui, tout sûr. Ça et tout. Mais bon, ça m'a permis de nous maintenir et de nous construire et de ne pas éventuellement... basculer de l'autre côté, dans la délinquance, dans le banditisme, voilà. Et aujourd'hui, je suis salarié d'une entreprise, je travaille à temps partiel. Avant ça, j'étais commerçant, et là, en découvrant la plateforme, j'ai vraiment vu beaucoup de choses qui m'ont choqué, qui m'ont interpellé et qui m'ont motivé à combattre quotidiennement pour les futures générations, parce que l'objectif, il est là, parce que ça ne sera pas pour nous. Ça sera pour nos enfants et nos petits-enfants. Les améliorations des conditions de travail, amélioration des conditions d'hygiène de vie. Il y a beaucoup de choses, quoi, je veux dire. La discrimination, malheureusement, c'est... je suis né en 74, il n'y a rien qu'à changer concrètement. Et voilà, quoi, je...
Eh oui, actuellement...
J'aimerais des actes par rapport au discours, quoi. Plus des actes que de discours. Oui.
Apparemment, y compris les restaurants du cœur se retrouvent aussi en difficulté. Hein. Restaurants du cœur, les restaurants du cœur,
catholiques et autres,
sont en difficulté, surtout par rapport à la paupérisation aussi de la population. C'est de la pauvreté, me semble-t-il, nous sommes passés à notre stade qui est celui de la misère. C'est ce que l'on pourrait dire. Karima, voulais-tu réagir ou Kamel, comme vous voulez. Et puis bon, sinon, nous allons faire une première pause musicale avant de poursuivre et de rentrer réellement dans le vif du sujet. Avant cette première pause musicale, nous assurerons à nos camarades, que ce soit Fatih Bouara, que ce soit Raïb Sétita ainsi qu'Antoine, de toute notre amitié et de tout notre soutien en des moments qui sont aussi difficiles. Galère, c'est 88.4. Une musique avec CD. Émission Les Échos du Grand Saint-Barthélemy consacrée à la plateforme de Sainte-Marthe ou de Saint-Barthélemy. Vous pouvez nous appeler en composant le 07 49 53 26 38. Un McDo solidaire. La question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas un oxymore, c'est-à-dire deux mots qui s'opposent, McDo et solidaire. Alors, quelle réaction vous pensez? Pensez-vous qu'effectivement que cela peut s'accoler les deux McDo solidaires?
Je dirais que non, mais le fast social food, oui. Donc oui. Le fast social food, et nous, ce qui a commencé notre litige avec McDo, c'est quand on a voulu mettre en place une plateforme sociale. Et de se dire que tout salarié qui travaille chez McDonald's, tous nous avons les mêmes embauches, les mêmes formations, les mêmes évolutions. L'hamburger, qu'il soit dans les quartiers nord, les quartiers sud, ou peu importe dans quelle ville, a le même goût. Nous avons lutté pour mettre une charte sociale. Et quand on a commencé à la mettre sur Marseille, les Bouches-du-Rhône, on est monté à Elbeuf, Rouen, Paris. Et c'est là où qu'on a commencé à devenir un modèle social très dangereux pour McDonald's. Et donc aujourd'hui, ça nous a coûté la perte d'emploi et la fermeture de ce restaurant. Donc McDo solitaire, McDo capitalisme arrogant, orgueilleux, oui, mais pas solidaire.
Alors,
parce qu'on on les a pas vus pendant nos confinements, il faut pas l'oublier. D'accord. Et il faut pas oublier qu'il y avait des gens qui crevaient de faim, mais par contre, au lieu de venir et porter main forte à cette population ou à cette clientèle qui est rentrée dans la précarité, de leur donner ce qu'ils avaient dans les stocks, ils ont préféré les jeter à la poubelle.
Ah oui, ça c'est bien le système libéral qui veut cela. Donc, revenons un peu d'un point de vue histoire. Histoire de McDo. Depuis quand le McDo à Sainte-Marthe a-t-il été installé? il y a eu ce côté qui est un côté qui a été un peu positif, qui a été l'emploi aussi d'habitants. Alors bon, pour revenir, puis après, tu as déjà entamé un peu le démarrage des luttes de façon interne. Donc peut-être ce qui est important, c'est de rappeler un peu à quel moment, quel syndicat qui était à ce moment-là et autres.
Ce serait bien de pouvoir faire rappeler l'histoire depuis 92, pourquoi il a été créé ce restaurant. Je vais laisser Karima intervenir parce qu'elle était là. Elle a contribué à pouvoir créer un dynamisme autour de ce quartier, de ce petit village gaulois. Et surtout en espérant, parce que quand McDo ils sont venus, ils nous ont vendu un rêve. Nous ont dit venez comme vous êtes, et nous la seule chose qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de réaliser ce rêve là qui s'est transformé 30 ans après en cauchemar.
Alors merci Kamel, mais tu pourras compléter. Effectivement, le McDo de Sainte-Marthe a été créé en 1992. Cette inscription de ce McDo dans ce territoire qui est en politique de la ville est la volonté à l'époque de Martine Aubry, qui avait monté une fondation qui s'appelle la Fondation Agir contre l'exclusion, auquel elle avait associé des grands noms d'entreprises françaises. Et McDo s'est positionné dans cette fondation et a décidé effectivement à cette époque de créer un McDo à proximité d'un quartier populaire en politique de la ville. Ça, c'est la première chose. Donc cette volonté, elle vient d'une volonté, je dirais politique, même si de Martine Aubry, en associant ces grandes entreprises. La deuxième chose qui est quand même importante, et Kamel, tu me diras si tu es d'accord, c'est que le McDo, dès le départ, c'est un McDo pas comme les autres. Exactement. Et c'est ça qui fait la singularité du McDo. Et je trouve ça étonnant que c'est pas pour rien qu'il soit inscrit dans le village gaulois, parce qu'effectivement, Jean-Marc connaît bien l'histoire du Grand Saint-Barthélemy. Toute l'histoire du Grand Saint-Barthélemy, c'est une histoire de résistance, de mobilisation et de défense des droits des habitants. Et vous êtes inscrit complètement dans cette mouvance. Et moi, quand j'ai rejoint la lutte des McDo, ce que je trouvais intéressant au regard de ce qu'ils nous ont raconté, c'est que dès le départ, ils ont surtout salarié effectivement des habitants des quartiers. Et on sait le taux de chômage vertigineux dans ces territoires. Ça, c'est la première chose, les jeunes, mais aussi les femmes, qui est la seconde catégorie la plus touchée par le chômage nationalement et a fortiori dans nos territoires. Et puis, pour la jeunesse, mais Kamel pourra en parler, il y a eu un choix qui a été fait de la part de l'équipe du McDo, menée de main de maître par Kamel Guémari, c'est de donner une chance à des jeunes qui sont soit passés par la case prison, soit qui devaient y séjourner. Donc en leur proposant un contrat, un premier contrat, etc. Et ça, c'est très rare aujourd'hui des entreprises qui ont une vision sociale dès leur démarrage. Et ça, je crois que, en fait, une structure, ça reste une structure classique. McDo, après ceux qui étaient à l'intérieur, lui ont donné cette emphase, cette dimension sociale.
Et humaine.
Et, voilà. Et bien sûr, Kamel a commencé à en parler. La lutte sociale pour que les salariés aient des acquis sociaux dignes, en plus de ce travail d'ouvrir les portes du McDo par des contrats à des femmes, à des jeunes. Il y a des jeunes en situation extrêmement problématique, judiciairement parlant.
La situation s'est dégradée à quel moment, la relation avec le patronat ?
Quand on est syndiqué. Chez eux, donc, on rentre automatiquement en opposition contre le système McDonald's. On est de suite stigmatisé, donc et c'est là où tout commence chez McDonald's. McDonald's, ils aiment bien des salariés précaires, ils aiment bien... parce qu'il y a un taux de turnover élevé. Ils aiment bien employer les étudiants parce qu'ils ont de l'énergie. Et nous, quand on s'est aperçu au sein de ce restaurant, parce qu'à l'époque, on s'est battu pour pouvoir créer une unité économique et sociale. Et ça, c'est important au sein d'une entreprise, parce qu'on était 24 restaurants. Et pour nous, c'était une communauté, c'était un ensemble de groupes tenus par un seul patron. Et c'est de là qu'on a réussi à commencer à s'organiser. Et dès qu'on a mis cette unité économique et sociale en place, de suite, on a mis un CE, CHACT, des élus à cette époque. Et on a commencé à se pencher sur nos droits. Et on s'est dit, mince, on use ces étudiants parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer leurs études. Donc, ils sont obligés de se sacrifier et de pouvoir travailler. Et sachant que McDonald's, ils emploient des salariés selon leur amplitude horaire et selon les rushs. Donc, l'amplitude horaire, elle est très large. Un salarié qui travaille chez eux et qui est étudiant, qui finit à 2h du matin. Donc c'est un sacrifice de pouvoir travailler, payer son petit studio, ou sa nourriture ou ses études, et de pouvoir se lever le matin et pouvoir essayer de tenir. Et nous, on s'est dit, merde, il s'est sacrifié. Donc c'est là où on a commencé à se bagarrer pour mettre des heures majorées à partir de 22h. C'est-à-dire, si cette personne-là donne un sacrifice, se sacrifie, c'est un coût. C'est un coup, et de là, on a commencé à s'organiser pour mettre le 13e mois en place. La participation bénéfice, même qu'aujourd'hui, on arrive à la déguiser, la faire évader, que les restaurants ils se retrouvent en déficit pour ne pas donner ces avantages-là. Les primes trimestrielles et tout ça. Donc, il y a eu pas mal d'avancées, nous, au sein de cette structure. Donc, quand ils ont vu qu'on était organisé dans les Bouches-du-Rhône, ça part du McDo, de la Valentine, au Bagne, jusqu'à Saint-Victoré, Vitrolles, il y avait à peu près 24 restaurants. McDonald's s'est mis un peu en rogne, s'est dit on était les meilleurs salariés, les salariés les meilleurs rémunérés, ou qu'ils avaient les meilleurs avantages sociaux. Donc, ils ont commencé à diviser ces restaurants, les vendre à des franchisés. Et au bout de 15 mois et 3 mois, le franchisé dénonçait ces accords. Donc, on était obligé de renégocier ces accords-là. Mais comme nous, on n'existait plus dans ces structures ou dans ces restaurants, parce que c'est d'autres franchisés qui les a récupérés, donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à éliminer les têtes de turc ou faire la chasse à la sorcière. C'est-à-dire, pour faire disparaître tous ces droits-là qu'on a pu obtenir. Et nous, de là, on s'est dit, mince, il va falloir mettre cette charte sociale. On a réussi à bloquer la chaîne de distribution. On a mis 215 McDo en rupture. Et malheureusement, il fallait nous parler de dialogue social. Mais aujourd'hui, on a remarqué qu'il faut qu'on essaye de fermer nos robinets pour qu'on puisse se faire entendre et essayer de les réunir autour d'une table pour pouvoir leur dire qu'on est des simples personnes, on est des êtres humains et on souhaite abolir l'esclavage moderne.
Oui.
C'est de l'esclavage moderne. Et la plupart des familles, chez nous, au restaurant de Saint-Barthélemy, c'est des familles issues monoparentales, c'est comme ça qu'on dit.
Une majorité, oui.
Et nous, chez McDo, on reste un an, deux ans, trois ans. Au bout de trois ans, on commence à comprendre ce système-là. Sachant que nous, on n'a rien autour de nous, mis à part de travailler là et de pouvoir perdurer, résister et commencer à apprendre nos droits. Donc, la plupart des avantages sociaux sont partis de ce restaurant-là et cette petite intelligence collective qui a été créée, et on a voulu la partager à d'autres, que ce soit à d'autres camarades dans d'autres villes. Et donc, voilà, j'ai été l'une des premières cibles de McDo à me faire éliminer, disparaître. Et ce qui est malheureux, on a commencé cette lutte avec une étiquette.
Oui.
Une étiquette de personnes violentes, des racailleux. Pour pouvoir gagner le cœur des citoyens, des travailleuses et des travailleurs et pouvoir avoir une crédibilité, il fallait tirer une longue charrette et essayer de montrer patte blanche pour pouvoir être crédible et être entendu surtout.
Oui, merci Kamel. Là, nous allons passer et appeler Salim en attendant pour qu'il puisse contribuer aussi à notre entretien radiophonique. Alors, en attendant d'avoir Salim, le terrain occupé par McDo, il est prévu ou il est public ?
Et il est prévu et
privé.
Privé. Donc le fonds de commerce appartient à McDo, le terrain aussi.
D'accord.
Et moi aussi, j'appartiens à McDo parce que mon contrat est, je suis toujours salarié à McDonald's. Il y a eu la liquidation le 12 décembre. Donc quand il y a eu cette liquidation le 12 décembre, nous le 13 décembre, le liquidateur a transféré nos contrats chez McDonald's France. Et aujourd'hui, par surprise, j'apprends que le liquidateur a écrit à l'inspection du travail en demandant mon licenciement. Donc, je ne comprends pas. J'ai rendez-vous, j'ai eu un entretien et le liquidateur ne m'a pas convoqué. L'inspection de travail, je la prends par mail. Donc, je leur ai écrit que je ne comprenais pas pourquoi on demande mon licenciement alors que je ne suis pas salarié Sodeba, je suis salarié McDonald's France, et que ce même liquidateur a transféré mon contrat. Et de là, j'attends le rendez-vous le 4 septembre devant l'inspection de travail. Le 4 décembre, à l'inspection du travail. Donc je vais essayer d'encore de prouver ma bonne foi et essayer de démonter ce dossier ou cette discrimination, parce que aujourd'hui voilà, on est là et je suis salarié de McDonald's France. Ça fait plus de 2 ans que j'aperçois pas de salaire. Donc je sais que peut-être je vais partir sur une bataille qui va durer 5 à 7 ans. Et pendant 5-7 ans, je sais que je ne vais pas avoir de salaire parce que je ne pourrai pas toucher le chômage. Je suis toujours leur salarié. Ils m'ont coupé la mutuelle, donc je ne peux même pas avoir le droit de me soigner. Même pas en tant que je ne reçois pas de rémunération, je n'ai pas droit à la CMU parce que je suis toujours salarié. Donc je suis dans un flou juridique.
Donc, oui, tu peux continuer.
Voilà, j'aimerais bien que McDonald's prenne conscience que nous ne voulons pas leur faire la guerre, mais qu'ils cherchent à respecter un territoire, que ce territoire-là, les pouvoirs publics les ont aidés et avec notre propre argent sur la zone franche, sur l'aide à l'embauche,
oui,
sur
fait.
La TVA 5,5.
Tu fais bien
et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est ce lieu-là appartient aux travailleuses et aux travailleurs, aux quartiers, surtout aux habitants que ont aidé McDonald's pendant des années à s'enrichir.
Nous allons faire une pause musicale, c'est dit, en attendant que Samy puisse que nous puissions contacter Samy pour lui permettre d'intervenir sur les 88.4. Merci, c'est dit.
Motivé, 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 soyons motivés.
Alors, nous avons un membre du McDo, plutôt de la plateforme de Saint-Barthélemy. Bonjour, Salim Gramsi.
Gramsi, oui, bonjour.
Alors, oui, allô.
Oui, je vous écoute. Hein.
Voilà, alors nous sommes avec les camarades ici présents. Nous avons abordé une partie de l'histoire de McDo pour en arriver jusqu'à la plateforme. Plateforme qui nous semble être extrêmement importante, donc puisque c'est la situation d'aujourd'hui. Il me semble important de pouvoir avoir des éléments sur cette plateforme pour que les auditeurs et auditrices puissent arriver à comprendre non seulement la fondation, mais aussi les objectifs de cette plateforme.
Ah ben là, alors, tout simplement, c'est une plateforme d'entraide solidaire qui est née lors du premier confinement pour venir en aide aux habitantes et aux habitants des cas de Marseille, tout simplement. On s'est rendu compte qu'il y avait tout un pan de la population qui était en crise alimentaire. Donc, c'est pour ça que nous avons réquisitionné. Alors, la réquisition a eu lieu après le discours du président de la République, Emmanuel Macron, lorsque celui-ci a dit qu'en période de guerre, il fallait réquisitionner. Avec Kamel, on a décidé de réquisitionner le McDo, tout simplement. Après le premier confinement, il faut savoir que cette plateforme s'est transformée. On est passé du ventre au cerveau. C'est une plateforme qui maintenant, nous la surnommons la plateforme Lebes. Alors Lebes, pour ceux qui comprennent, ça va. Mais Lebes, c'est pour expliquer que c'est un d'expérimentation et d'innovation.
Nous attendons très mal. Pourrais-tu répéter un peu, parce que nous n'avons pas trop entendu, ça semble mal passé. Allô, oui.
Oui, je vous ai pas entendu là, ça a coupé.
Voilà, c'est ce que je disais, c'est que nous-mêmes, au niveau du retour, nous n'avons pas de retour par rapport aux clarifications que vous apportez.
Ah, c'est-à-dire, vous n'avez pas de retour.
Voilà, là, ça va mieux, mais c'est pour expliquer un peu non seulement la démarche, mais voilà.
Ah, d'accord.
Voilà.
Oui, alors, je reprends pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas pu m'écouter. Je disais que nous sommes passés d'une plateforme d'entraide solidaire à une plateforme d'expérimentation et d'innovation sociale. Alors, je m'explique. Nous sommes passés du ventre au cerveau. La plateforme ex-McDo est devenue une plateforme multifonction et multitâche, c'est-à-dire on s'occupe aussi bien des colis alimentaires que des cours de soutien scolaire, de la distribution de vêtements avec une association qui nous a rejoint qui s'appelle les Magasins Libres, Leïla.
C'est magasin gratuit.
Magasin gratuit.
Oui. Non, c'est Magasins Libres.
Bon, alors nous poursuivons. Okay, oui, bon, allez, oui.
Oui, donc voilà, juste pour vous dire que malheureusement, à ce jour, on est submergé par une demande. Nous pensions à un moment donné qu'il n'y avait que les quartiers nord qui étaient frappés par la pauvreté. Or, c'est faux, je peux en témoigner. Maintenant, je peux vous dire qu'il y a des arrondissements de l'État tels que le 7e, le 8e, le 12e arrondissement, où nous avons des poches de pauvreté et des familles, des dizaines, voire des centaines de familles qui sont en détresse alimentaire.
Le mode de fonctionnement et d'organisation, parce qu'à un moment donné, il me semble, bon, par le passé, de par mon âge, même si, bon, j'en ai certain, le mode de fonctionnement et ce qui menait les commos, c'était sous le mode associatif, c'est-à-dire loi 1901. Puis après, me semble que ça a été remplacé surtout par les collectifs qui fonctionnent sous des modes qui ne sont pas en termes d'officialité, mais d'officialisation, à savoir avec un président, un bureau. Quel est le mode de fonctionnement et d'organisation concernant
alors,
les plateformes
nous partons du principe, cette plateforme, elle regroupe 54 associations et 47 quartiers. Donc, vous comprenez bien que pour organiser tout ça, ça demande de l'intelligence, ça demande de la souplesse, ça demande, une certaine expérience dans le monde associatif. Étant donné que chaque association a un ADN un peu particulier, on a décidé de fonctionner en intelligence collective. La seule structure qui est sortie de la plateforme LEBES du McDo, c'est une association qui s'appelle le Sel de la Vie, qui, elle, s'occupe du soutien scolaire et de la formation. Par contre, pour revenir à la plateforme d'entraide solidaire et de McDo, d'entraide solidaire ex-McDo, cette plateforme-là, on travaille en intelligence avec les associations, les quartiers, les habitants, et en fonction des besoins du terrain, on fait en sorte de créer une force d'action rapide. Voilà, on appelle ça la FARM, donc c'est une force d'action rapide de l'entraide en fonction des besoins du territoire lorsqu'ils nous remontent.
Oui, Farid désire poser une question, puis après je laisserai la parole à Mohamed parce qu'il a peu. Je l'ai guère entendu.
Oui, moi, ma question, Salim, ça t'associe aussi à Kamel, à Mohamed, à Karima, concernant l'initiative qui a été mise en place sur la plateforme de McDo. Est-ce qu'on parle aussi de précarité silencieuse, notamment ces gens-là qui sont dans la dignité, dans l'éducation, qui n'osent pas montrer qu'ils sont dans le besoin? Est-ce qu'on on le remarque aujourd'hui, et lors du premier confinement et lors du deuxième confinement allégé? Et deuxième question, je voulais savoir, est-ce que la plateforme, elle a été élargie est-ce qu'elle est que sur le centre du Grand Saint-Barthélemy, ou elle a été élargie vers les quartiers comme la Sabine? Je voulais savoir. Merci.
Alors, pour répondre à ta première question, alors je vais commencer par la seconde. La plateforme du McDo d'entraide et solidaire, elle s'adresse pas uniquement au Grand Saint-Barthélemy, elle s'adresse à l'ensemble de la ville de Marseille. Il faut savoir que lors du premier confinement, on débordait, on touchait Aix-en-Provence, le quartier de Jas de Bouffan, la Signane, on touchait d'autres territoires que Marseille. Et là, effectivement, avec le second confinement, on reçoit des gens qu'on n'avait pas l'habitude de recevoir lors du premier confinement, comme j'expliquais lors de ma première explication. Les habitants viennent du 7e arrondissement, du 8e, du 12e, du 11e. En fait, la plateforme McDo, malgré elle, elle est devenue une plateforme alimentaire, mais pour l'ensemble de la ville. Et pour répondre à ta première question, oui, entre le premier et le second confinement, la plateforme du McDo s'est agrandie. On a connu d'autres nouvelles structures qui nous ont rejoints, et on en est heureux parce qu'elles nous apportent leur expertise, elles nous apportent leur connaissances et leurs compétences, et du coup, ça nous permet de nous professionnaliser un peu plus que lors du premier confinement. C'est pour ça qu'on peut répondre maintenant à plusieurs problématiques à la fois. Comme aujourd'hui, on a pu distribuer des colis alimentaires tout en distribuant des vêtements.
Eh bien, bravo, bravo, Salim. Je vais laisser passer la parole.
Juste un mot. En fait, c'est pas bravo, Salim. En fait, c'est bravo à toutes ces associations qui nous ont rejoints. C'est bravo à tous ces bénévoles que Mohamed gère efficacement, je dirais même professionnellement. Donc, je suis heureux que les gens qui nous ont accompagnés lors du premier confinement puissent montrer tout leur professionnalisme et tout leur talent lors de ce second confinement. Donc, moi, personnellement, je m'incline face à leur compétence et à leur dévouement. En tout cas, merci à vous et merci à eux.
Merci Salim. Bon, lorsque je disais Salim, mais c'est pour l'ensemble de la plateforme et des militants de la plateforme, cela va de soi. Alors Mohamed, nous t'avons guère entendu. Alors.
Ben écoutez, je vais en même temps répondre un peu de manière à la dernière question là, comme je vois les choses et comme les choses se passent, c'est qu'on a eu une grande solidarité, il y a eu une convergence des luttes. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est pas de la prétention, loin de là, mais la plateforme Les Besses et la plateforme Ex Macto avec maintenant Après, c'est vraiment un rouleau compresseur et on est très réactif, on est très dans l'action, on est vraiment dans le réel, on est dans le concret. Et c'est ça notre force aujourd'hui, on a pas mal de partenaires qui veulent se joindre encore à nous, la demande elle est grandissante, parce que ça veut dire que le besoin il est là, depuis très longtemps, on n'a jamais été à l'écoute de tout ça, et aujourd'hui je suis content qu'il y a cette prise de conscience, et j'espère qu'avec tous ces partenaires, tous ces bénévoles qui se dévouent quotidiennement, d'arriver concrètement à faire des choses réelles, et répondre par des actes concrets, à toute la population marseillaise, mais je pense que ça peut aller bien au-delà, parce que les problèmes qu'il y a à Marseille, malheureusement, aujourd'hui à Saint-Barthélemy, de par la plateforme, je suis désolé, il y a les mêmes problèmes dans les petits villages, c'est de partout, quoi, je veux dire, c'est vraiment un problème national, donc en étant en communion avec nous, quoi, je veux dire, en venant travailler avec la plateforme, parce que nous, on n'a pas de frontières, on n'a pas... On n'oblige rien du tout à tous ceux qui veulent venir participer à notre élan, à nous, de solidarité, quoi. On n'a pas de frontières, on n'a pas d'obligation. C'est vraiment, on utilise le slogan de McDo, de « Venez comme vous êtes ». Et tout le monde est bienvenu, aussi bien que les associations, que les professionnels. D'ailleurs, on en reçoit quotidiennement des professionnels, des associations, pour qui et même eux, ils sont curieux, et ils sont admiratifs, ils ont une envie de venir construire avec nous, de développer avec nous. Donc nous, on est ouvert. C'est une plateforme, elle est quasiment on est ouvert 7 sur 7, 24 sur 24 presque. Et non, je suis fier de tout ça et
chapeau pour ce travail collectif, parce que ce n'est pas évident. Ça, c'est une première observation. Deuxième chose que je voudrais vous poser comme question, même si nous ne sommes pas à la télévision, comment vous gérez les choses au quotidien ? Combien de personnes, ne serait-ce que dans le cadre de la distribution des colis alimentaires, comment s'est-il, vous vous organisez pour recevoir tout ce monde, en respectant les consignes sanitaires et autres ?
On s'organise du mieux qu'on peut. Bon, maintenant, avec presque 8 mois d'activité, oui, c'est vrai que c'est court, mais en étant quotidiennement sur le terrain, croyez-moi qu'on a appris beaucoup de choses. Et on s'est organisé tout simplement, on a corrigé nos erreurs qu'on faisait au départ, on a amélioré... notre réseau, parce qu'il s'agrandit, et tout ça, ça a été partagé, tout ça, ça a été mis en communion, tout ça et tout. Et après, concrètement, on a jamais eu notre force aujourd'hui, mais bon, je ne veux pas m'en vanter, parce qu'on a besoin des services publics, parce qu'ils n'ont jamais été présents. Donc aujourd'hui, c'est une main tendue de notre part au service public, parce qu'on a besoin de vous, et en même temps ils ont une obligation, je l'ai dit tout à l'heure, de répondre à leur population, quoi, je veux dire, à la population marseillaise, parce qu'on paye nos impôts, moi personnellement je paye mes impôts, je suis un contribuable, je contribue à la société, donc je vois pas pourquoi il n'y a pas cette répartition des richesses, et pourquoi on n'en profiterait pas comme tout être humain, comme l'a si bien souligné Kamel. Je ne sais pas quoi vous dire de plus.
Oui. Donc, par exemple, lorsque vous recevez la population venant de tout Marseille, par exemple pour la distribution, tout à fait, oui. Parce que j'entends l'aide alimentaire, maintenant vous faites aussi une distribution de vêtements. Comment tout cela peut-il s'organiser dans une journée ?
Je vais laisser parler Kamel, parce qu'il a quelque chose d'important à dire peut-être.
Sur cette organisation, ce qui est beau, on ne peut pas dire que chez McDonald's, il n'y a que du mauvais. Ils nous ont appris le QSP, qualité, service, propreté. Donc, être ici et maintenant, répondre dans l'urgence, travailler dans l'urgence et toujours garder le sourire et surtout de faire preuve sur la gestion de conflits et tout ce qui s'ensuit. En fait, toute cette richesse-là, on a essayé de la mettre en place au sein de cette plateforme sociale. Au lieu de faire des hamburgers, à la fin, ça sort des colis alimentaires ou des colis d'habits. C'est-à-dire, aujourd'hui, de donner un t-shirt, donner un pantalon, un short, ou un caleçon, c'est pas suffisant, mais on préfère donner une garde-robe, de, voilà, que la personne elle puisse avoir une veste, un t-shirt, un pull, voilà, de pouvoir essayer de répondre vraiment aux besoins des personnes. Et on n'a rien inventé. La seule chose qu'on a mis, c'est notre cœur. Et ça, c'est important. Et aussi de faire rappeler que la solidarité n'a pas de prix. Et nous ne sommes pas là à chercher la gloire. Parce que ce qu'on espère à travers notre initiative, ce n'est pas de la reconnaissance, mais c'est de l'inspiration. Que d'autres puissent s'inspirer de ce qu'on fait ou de faire encore mieux que nous et essayer de mettre sous les projecteurs cet exemple-là au lieu d'en parler des règlements de compte. Il n'y a pas que ça dans nos quartiers.
Nous sommes d'accord.
Il n'y a pas que la prostitution dans nos quartiers. Il y a des personnes extraordinaires avec des peu de moyens, avec des petites mains. Quand elles sont ensemble, ça fait des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qui sont surprenantes. Et le seul cadeau qu'on attend de retour, c'est le sourire de celui qui est en face de nous. La seule chose qu'on attend, nous, de ces bénévoles, c'est d'arriver avec le sourire et de repartir avec le sourire. Et souvent, je dis une chose aux bénévoles, on ne va pas vous remercier. Je ne vous remercie pas, parce que ce que vous faites, vous ne le faites pas pour nous, pour la plateforme sociale ou pour cette plateforme, vous le faites pour vous, pour votre prochain. Donc on doit tous se remercier, parce que ça fait du bien de faire du bien. Et c'est ça qui est important, de se dire merci de m'avoir fait ou d'avoir fait ça, c'est dire que la personne, si elle est là, elle sait pourquoi elle est là. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chef, c'est un peu comme dans le système du capitalisme, c'est lui qui est au-dessus, qui commande. Il y a une intelligence collective et quand on se regarde, ben, on a envie de se prendre dans les bras, on a envie de se dire « waouh, cette misère-là, on la compte pas et on s'interdit de la compter ». On l'affronte. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez dit combien de... que ce soit une ou mille personnes, pour nous, c'est de trouver ces solutions, c'est comment pouvoir respecter leur dignité, comment pouvoir essayer de combattre cette misère et de la combattre sans heurter son prochain. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, on remercie toutes ces associations. On remercie... moi, je les appelle mes infirmières du cœur. Je les ai rencontrées dans la rue.
Maison d'infirmières.
Aujourd'hui, c'était les infirmières. C'est toujours les infirmières libérales parce que on parle d'eux, mais ils sont en roue libre, les pauvres. Et ces infirmières, ben, elles ont eu l'intelligence de créer un collectif, de se réunir, d'essayer de chacune, chacun partager leur misère, leurs difficultés, et aujourd'hui ils en sortent à travers cette lutte et à travers la solidarité avec la plateforme solidaire, la maison des infirmières. Et pour nous, c'est une fierté, comme on peut parler de santé, environnement, pour tous. Donc eux aussi font partie de ces personnes, de notre fierté, que il y a pas mal de choses qui ont émergé pendant ce confinement. D'ailleurs, on ne pourra jamais remercier Fatih Brouat, parce que c'est un mentor, c'est un grand frère, c'est un exemple. Et pour nous, voilà, c'est notre Fatih.
Sans dédicace Fatih.
Ma maman qui est là.
Juste deux choses. Merci Kamel d'avoir rappelé que... Le travail que vous faites, c'est une mise en exergue des solidarités qu'il y a sur les quartiers. Tout comme l'objectif de cette émission, c'est de ne plus parler des Kalachnikovs. Il y a certains médias qui sont mieux armés et qui le font volontiers pour pouvoir parler et présenter d'une certaine façon les quartiers nord en les stigmatisant. Donc pour nous, c'est mettre en exergue un peu les points positifs de ces quartiers et surtout cette solidarité, ce qui est important. Ça, c'est une chose. Puis après, l'autre question que je voudrais poser, c'est que l'heure tourne. C'est, quand on parle de solidarité, j'entends que vous travaillez avec les infirmières, c'est quel est le lien que vous entreteniez avec d'autres organisations de solidarité, que c'est par exemple Emmaüs, Fatih Emmaüs. Alors, le lien, vous entretenez des liens, des relations, il y a Massilia Couche, par exemple, système. Toutes ces associations, vous êtes en lien en termes de coup de main, de solidarité, de mutualisation des moyens, je ne sais pas, je pose des questions.
Nous, au sein de cette plateforme sociale solidaire, on est des petits bras. Quand on regarde Emmaüs, ce qu'ils font depuis des années, et quand on prend l'un des meilleurs exemples, l'abbé Pierre,
oui.
Il a laissé un héritage et aujourd'hui on en a bénéficié de cet héritage et on en bénéficie, beaucoup de gens en bénéficient encore. C'est ça qui est magnifique, que ce soit les Restos du Cœur ou toute personne qui aide son prochain. C'est cette solidarité qui existe et que nous, on est un petit plus. On est un petit moteur qui est ancré dans ces quartiers-là. Et ce qu'on dit, il n'y a pas mieux que celui qui côtoie et qui ressent la douleur pour mieux l'exprimer. Et c'est là où on essaye d'y être. Donc avec ces infirmières libérales, nous sommes contents de pouvoir travailler avec eux parce que de s'entraider. Parce que quand elles vont chez des familles, quand elles voient que ces familles-là elles sont dans une précarité et en plus elles sont là en train de les soigner, que ce soit à Félix Piat, au Rosier, dans des quartiers qui sont abandonnés. Eh ben, elle nous remonte l'information, elle nous donne l'adresse de ces personnes-là, et nous, on a mis en place le Uber solidaire.
Oui,
donc, et ça, c'est très important parce qu'il y en a qui n'osent pas, il y en a qui veulent garder leur dignité, leur fierté, et eh ben, à nous ben, de la préserver, d'y aller près d'eux. Il n'y a pas très longtemps aussi, on parle des maraudes. Il y a pas mal d'associations et force et honneur à toutes les maraudes de Marseille. Je suis proche de la maraude du cœur et il n'y a pas très longtemps on a fait une maraude et ça m'a donné une leçon de vie. On s'est approché près d'un SDF et d'ailleurs il y a des SDF qui travaillent et qui nous aident au sein de cette plateforme sociale solidaire qui est une plateforme humaine et c'est important. Et cet SDF là, quand on s'est approché, on lui a amené un peu un plat chaud et on a essayé de discuter deux minutes avec lui. En partant, il nous a rappelé. On s'est dit, mince, qu'est-ce qu'il a? Peut-être il a un souci. On s'est arrêté, on est reparti le voir. Il nous a tendu 10 euros. Il nous a sorti 10 euros de la poche. Il nous a dit, tenez. On lui a dit, non, mais c'est gratuit. Mais non, je sais que c'est gratuit, mais c'est, je peux contribuer. Il m'a coupé le souffle, cet homme-là. Pour moi, c'est un grand homme. Et cet homme-là qui est dans la rue est meilleur que beaucoup, beaucoup d'hommes. Et peut-être meilleur que moi, parce que peut-être moi, je n'aurais pas la capacité, si j'avais seulement que 10 euros pour vivre et ne pas savoir ce que je vais pouvoir manger le lendemain, je me serais gardé ces 10 euros. Lui, il a eu le grand cœur de pouvoir les partager. Et en sachant que demain, le lendemain, peut-être n'allait pas manger. Et c'est ça qui est magnifique et que c'est, pour moi, c'est des leçons de vie quand on est dans la rue, quand on est proche de ces gens-là.
Je sais que votre temps est imparti. Donc la question avant de votre départ, c'est à savoir un peu quels sont les projets. Parce qu'il me semble savoir que vous vous intéressez aux jeunes aussi, parce qu'il y a ce projet à destination des jeunes, un projet d'insertion. Donc, juste pour avoir quelques listes, pour dire que les actions ne se limitent pas à celles-ci, mais que vous avez d'autres projets en perspective.
Le projet est le même projet que depuis cette lutte qui est menée par les salariés ou les ex-salariés, dire les salariés, le salarié et les ex-salariés de McDonald's, c'est de pouvoir combattre la délinquance, de pouvoir donner une bouffée d'oxygène à un territoire qui est abandonné, de se dire que c'est que par le travail qu'on puisse combattre la délinquance et la prostitution, et le radicalisme aussi, parce que ces jeunes-là, on les abandonne, on peut que les laisser livrer à eux-mêmes. Nous, on souhaiterait être un repère, continuer à être ce même repère qui existait, parce qu'on le faisait, ce travail. Et alors qu'on était salarié à McDonald's, on avait la double casquette, la casquette de travailleur et la casquette sociale. Et notre plus grande fierté, quand ces jeunes-là, on arrivait à les sortir des quartiers et essayer de remettre, ou de prison, et remettre l'émetteur au récepteur au même niveau, même s'ils ne réussissaient pas au sein du restaurant, les orienter vers une formation, les accompagner. Et quand on les voit finir plombier, chauffeur-livreur, transport en commun, dans la coiffure, et quand on se prend dans les bras, on se dit waouh, on a réussi à sauver cette personne, et elle est là, notre fierté, et nous, ce qui compte pour nous, après McDo. Et c'est pour ça que cette association, elle a été créée, et c'est pour ce but-là, et pour pouvoir donner, continuer à donner cet espoir que ce restaurant a pu le donner, et pourquoi ce restaurant existe dans ce territoire. Parce que dans ce territoire-là, chez McDonald's, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir accéder à l'emploi. Et nous, chez nous, ce qu'on souhaite faire, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme ou être quelqu'un ou de connaître quelqu'un pour pouvoir accéder à l'emploi.
C'est donner du sens tout simplement aussi à la vie de tout un chacun aussi à travers ce que vous dites. C'est ce que je retiens comme, pas moral, mais comme fil conducteur aussi de McDo. Alors Farid a une question à poser, puis après nous allons, mais ça sera très rapide parce que le mot de la fin sera pour Karima, Kamel ainsi que moi-même.
Moi j'ai une question concernant l'impact psychologique lors du premier confinement et du deuxième. Plus allégé, comment ça se passe vis-à-vis des habitants? Et ma deuxième question, est-ce que les habitants du Grand Saint-Barthélemy, il y a pratiquement 15 à 16 000 habitants, est-ce qu'ils participent éventuellement pour vous aider à, financièrement ou pas? Est-ce que les habitants sont concernés aussi dans ce cas-là?
Sachez que dans ces quartiers-là, malheureusement, quand on réduit l'être humain à un niveau et on essaie de le restreindre, il est dans la tactique, il n'est pas dans la stratégie. Et c'est l'instinct humain souvent qui prend le dessus. Et c'est ça que nous, on a envie de donner cette petite orientation ou cette petite inspiration pour qu'on puisse sortir de la tactique et aller vers la stratégie. Et psychologiquement, oui, il y a beaucoup de gens sur le deuxième confinement qu'on retrouve qu'ils ont perdu leur emploi, qu'avant, les fins de mois, ils étaient à découvert et aujourd'hui, on les retrouve les débuts du mois à découvert. Beaucoup de jeunes entre 18 et 25 ans qui n'ont aucune ressource, qu'on les laisse à l'abandon.
Les personnes âgées aussi, surtout.
Les retraités, qui ils payent leur loyer, il leur reste plus rien à manger. Donc, ce confinement nous a fait prendre conscience que nous sommes que des voyageurs au sein de cette terre. Et on aimerait bien voyager en paix.
Eh oui. Merci. Alors, Mohamed, si tu
Merci
avais...
à vous.
Non, mais un mot pour une guise de conclusion.
Je vais répondre à ces questions. C'est que par rapport au confinement, par rapport à la demande, non, on a toujours eu autant de... Il y a eu peut-être un creux avec l'été, mais bon, on se souvient tous qu'il y avait les fameuses allocations rentrée scolaire qu'ils ont pu pallier, on va dire, tout ce retard du premier confinement. Mais après la rentrée, d'ailleurs, on avait fait des distributions de fournitures scolaires et de vêtements aux gens qui en avaient besoin. Et à partir de là, ça s'est reparti à une vitesse vertigineuse. Et du coup, nous, comme on était déjà dans l'action et comme je vous ai dit, qu'on n'en a jamais eu de pause, on a été tout de suite opérationnel et réactif et on a répondu à la demande. Mais malheureusement, au premier confinement, on avait créé une cagnotte. Merci aux donateurs pour ce premier geste et qui s'est épuisé avec la fin de l'été et on a pu répondre à toutes ces demandes là mais là depuis septembre c'est beaucoup plus compliqué de manière à ce qu'on puisse approvisionner tout ça. D'ailleurs on a remis une deuxième cagnotte en ligne. C'est Cotisup.
Oui, voilà.
Je le dirai peut-être à la fin.
Oui,
je la
parle.
Jean-Marc, tu pourras la rappeler à la fin
oui,
de l'émission.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci.
Et voilà, parce que comme je l'avais expliqué, on a jamais eu quoi. Les pouvoirs publics n'ont jamais donné de quoi, n'ont pas participé. Je veux dire, mais aujourd'hui, j'espère qu'on leur tend la main et j'espère qu'ils vont être réactifs par rapport à ça. Et à la population, surtout, c'est pas à la plateforme, parce que nous, la plateforme, on n'est que des intermédiaires, quoi.
Et comment se font les dons ? Là, par exemple, il y a des personnes, des auditeurs, auditrices qui écoutent l'émission. S'ils désirent, s'ils n'ont pas de temps, mais s'ils disposent de dire, bon, je vais faire des courses, je pense à mon prochain, donc je ramène où et ça se passe comment ?
Eh ben, ça se passe au 214 chemin de Saint-Barthélemy. Après McDo, c'est l'ancien McDo. Oui. Donc, ils peuvent venir à toute heure, à partir bien sûr de 10h du matin, comme ça, moi, qu'on s'assure qu'il y a une personne. Et même le soir tard, ça arrive qu'on récupère des dons à minuit, 1h du matin. Donc, hier, on a répondu à une urgence à 1h du matin. Je voulais dire un mot. Ou un dernier mot, on remercie toutes les personnes et on leur demande de nous excuser à toute personne qu'on a pu heurter ou à des personnes qu'on n'a pas pu aider, surtout. Et nous sommes que des êtres humains, oui, nous avons des défauts, nous ne sommes pas des gens orgueilleux. Nous demandons le pardon à toute personne et sachez que nous ne sommes pas une institut, nous ne sommes que des êtres humains et nous essayons de faire du mieux qu'on peut et n'oubliez pas que cette plateforme elle a été créée par des êtres humains et ces êtres humains vous aiment.
Merci. Alors Karima, le mot de la fin pour toi.
Alors le mot de la fin, en écoutant tout ce qui a été dit depuis le début de l'émission et pour avoir un peu suivi quand même ce qui se passe dans cette plateforme solidaire de Saint-Barthélemy, c'est que c'est une aventure humaine formidable. Formidable, et ça rappelle effectivement toute l'histoire de ce territoire où, oui, la somme de petites gens fait la grande histoire. Et là, ce qui s'est passé lors du premier confinement et dans sa continuité aujourd'hui, ben, rappelle que l'histoire n'est pas faite que par les grands hommes. Hein, ceux que le discours savant retient, les grands hommes ou les grandes femmes, bon, c'est souvent malheureusement les grands hommes que le discours savant retient, mais que ces petites gens qui font qu'effectivement... ce qui s'est passé dans cette plateforme, et aussi la lutte des salariés, et aujourd'hui la lutte qui est menée pour qu'effectivement quelque chose existe, et qui ressemble fortement à ce qu'a dit Kamel avec cet aspect à la fois d'entreprise, cet aspect social et d'insertion sociale des jeunes. C'est une catégorie à laquelle Kamel Guémari tient énormément. Tout ça rappelle qu'effectivement, c'est un écho formidable à l'histoire de ce grand territoire. Alors tu disais effectivement, c'est la plateforme solidaire de Saint-Barthélemy parce qu'elle est implantée dans cette histoire, dans ce territoire, pardon. Mais elle rayonne bien au-delà et c'est ça qui est extrêmement important. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire, c'est une formidable aventure humaine actuellement qui se déroule dans cette plateforme solidaire de Saint-Barthélemy et qui n'est pas terminée. Donc à très bientôt pour la suite.
Bien sûr. Merci beaucoup. Hein. Donc nous allons, alors pour Urgence Alimentaire, plateforme d'entraide ex-McDo. Alors c'est Cotise, C-O-T-I-Z, UP, UP. Voilà, c'est ainsi que vous pourrez aider. Le McDo, la plateforme. Voilà. Donc, je répéterai ceci à la fin de l'émission. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Sachez qu'au niveau du comité Mamega, vous aurez la possibilité de pouvoir toujours nous contacter ou bien voir un peu dans quelle mesure nous pouvons aussi contribuer à tout ce mouvement de solidarité que vous essayez de mener sur l'ensemble de Marseille. À très bientôt. Pause musicale sur le 88.4. Voilà. Et oui, je remercie grandement les amis de la plateforme de McDo, plateforme de Sainte-Marthe, plateforme de Saint-Barthélemy. Nous abordons la dernière partie avec les communiqués. UNESCO, accès gratuitement à la Bibliothèque mondiale sur Internet. Donc nous remercions notre amie Mona pour l'info. Il y a une bibliothèque numérique qui rassemble des cartes, des textes, des photos, des enregistrements et des films de tous les temps et qui explique les joyaux et les reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la planète. Alors c'est https://www.wdl.org/fr. Les combats pour l'égalité à l'école, conférence débat organisée par l'Université populaire de Marseille Métropole avec Esther Stina. Cela se déroule le lundi 30 novembre à 18h30. Donc l'Athébaïde, 65 traverses des fenêtres rouges dans 11e à Marseille, pour toute inscription qui est nécessaire, upop13@free.fr. Le comité Maméga a retrouvé la trace de la maire de secteur de 13e et 14e, Marion Bareil, retrouvée sur la Marseillaise du 10 novembre. Cette dernière n'a pas daigné répondre d'une façon ou d'une autre à notre invitation. En cette période de confinement, les activités de l'association Sheba demeurent malgré quelques perturbations. Ainsi, Sheba maintient ses permanences d'accès au droit sur rendez-vous auprès d'Anna au 04 91 67 35 89. Maintient aussi ses sessions d'initiation à l'informatique avec la médiatrice numérique, cela sur rendez-vous auprès après-midi avec Adija au G5. Maintient aussi des activités de la maison digitale tous les après-midi, accès libre aux ordinateurs dans la limite des postes disponibles, en respectant la distanciation sociale, et c'est la reprise de la commission éducative, la partie accompagnement à la scolarité. Le centre social Agora a poursuivi dans une certaine mesure ses activités habituelles malgré le confinement et en partenariat avec l'association Santé Environnement pour tous organise un dépistage et accompagnement Covid les lundis matins et tout cela se déroule sur rendez-vous au 04 91 02 37 31. Le centre social flamand Iris, 04 91 02 83 78, et la maison des familles et des associations, 04 91 02 95 75, ont mené à bien leur activité en prenant en compte les consignes gouvernementales. Les autres partenaires du quartier, équipe éducative de l'ADAP, les médiateurs d'Adélis et de Régis Service 13 n'ont pas quitté le terrain à l'instar du comité Maméga. Tous mobilisés sur et pour le Grand Saint-Barthélemy, à l'instar du groupe de veille qui, à force d'abnégation et de persévérance, a pu obtenir l'enlèvement des gravats et des dépôts de toutes sortes. Nous poursuivons avec un communiqué aussi, qui est celui du provenant de la scène nationale du CEF, qui nous informe déjà en termes de projection que le 5 et 6 janvier 2021, pardon, à 20h30, il y a une pièce de théâtre qui s'intitule « Féminine » de Pauline Bureau-Compagnie, « La part des anges, féminine et footballeuse ». Donc la fois prochaine, nous vous en dirons un peu plus longuement là-dessus. C'est réellement la retranscription aussi du parcours de l'équipe de football féminine de France. Donc voir un peu comment les choses se sont-elles organisées. Donc pour le 17, si je me trompe, tu me diras, jeudi 17, compte tenu que vous savez que ce seront des vacances, les Échos du Grand Saint-Barthélemy inviteront la librairie Transit, la Transit Librairie, qui est une librairie alternative, sachant que cela rejoint aussi l'objet social du comité, qui est celle de la lutte contre l'illettrisme et contre toute forme d'exclusion. Voilà, donc vous le savez déjà, éventuellement nous demanderons aussi la présence d'un écrivain, théâtreux, il a un peu toutes les cartes entre ses mains. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Bien sûr, c'est prenez soin de vous et de vos proches, respectez les consignes d'un intérêt de tout un chacun, le domicile est privilégié, les gestes barrières toujours importants, distanciation, même si Kamel remettait un peu tout cela en question, mais distanciation, gel, mouchoir à usage unique, gel, masque et éternuement dans votre coude. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup Sidi. Merci à Radio Galère d'avoir été parmi nous. Mais j'allais oublier quelque chose d'important, c'était de rappeler pour la plateforme, le soutien, comment arriver à cotiser. Alors pour apporter votre contribution à l'action menée par la plateforme, alors il y a CotiseZup. Alors c'est cotizup.com. Urgence alimentaire, plateforme d'entraide, ex-McDo. Donc je répète, cotizup.com. Urgence alimentaire, plateforme d'entraide, ex-McDo, pour apporter votre soutien sous quelle que soit la forme, déjà d'un point de vue financier, d'une part, mais aussi si vous avez la possibilité d'apporter, je ne serait-ce qu'une aide alimentaire, c'est extrêmement important par les temps qui courent. Merci beaucoup Radio Galère et à très bientôt. Bye bye, merci Sidi.